Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% Foot, l'émission consacrée à l'Olympique de Marseille et au football régional. Voilà, pour m'accompagner avec dans ce studio pendant une heure, monsieur Franck et Patrick. Bonjour messieurs.
Bonjour. À toutes et à tous également.
Voilà, on salue tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent chaque semaine pendant cette heure où on analyse l'actualité de l'Olympique de Marseille et du football régional avec le Sporting Club d'Aubagne-Arbel et les féminines de l'OM. Voilà, on va de suite commencer avec le championnat national puisque les filles de l'OM reprendront la compétition que demain avec la 17e journée d'Arkema Premier League qui démarre dès aujourd'hui avec un match entre l'Olympique Lyonnais et Le Havre. Et les filles de Courrèges se déplaceront au campus de Poissy demain pour défier le Paris Saint-Germain à 16h15. Voilà, match délocalisé, puisque on sait que les grandes affiches des féminines se déroulent habituellement au Parc des Princes, mais Coupe d'Europe et Ligue des Champions oblige, cette rencontre se déroulera à Poissy au camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on y reviendra longuement et grandement la semaine prochaine. Voilà, on va démarrer avec le National et avec une nouvelle défaite pour le Sporting Club d'Aubagne-Herbelle à domicile face à Fleury vendredi soir, 2-1. Voilà, ben, c'est compliqué en ce moment pour cette équipe d'Aubagne-Herbelle qui enchaîne des défaites chaque semaine, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà. Troisième défaite d'affilée et cinquième défaite sur six depuis le début d'année civile 2026.
C'est ça, n'y arrive pas actuellement. Alors évidemment qu'on peut expliquer de différentes manières ce qu'il arrive actuellement à cette équipe, mais bon, il est facile de présager de ci ou de là. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir gagner des points, et cette défaite face à Fleury 1-2 chez nous à domicile, elle souffre d'une première mi-temps relativement correcte de notre équipe, et à la mi-temps il y a eu un petit scénario, un but marqué, une égalisation qui est arrivée assez rapidement de la part de Fleury, et derrière on n'a pas été capable de faire quoi que ce soit sur la construction, et alors qu'on a des possibilités de jeu qu'on n'arrive pas à développer.
Oui, parce que c'est vrai que ça s'est joué assez rapidement entre l'ouverture du score, l'égalisation et le deuxième but pour les Franciliens. Voilà, en moins de 10 minutes, le scénario du match était quasiment ficelé. Et derrière, les Provençaux, les Aubagnais ont été incapables de revenir au score pour essayer de se relancer dans cette rencontre.
Aubagne-Herbelle, c'est une équipe, pour les avoir beaucoup regardés sur BFM, puisqu'on a la retransmission des matchs le vendredi soir, c'est une équipe qui est bonne en contre et qui a fait souvent des bons résultats à l'extérieur d'ailleurs, en jouant bas et en ayant des contres. Mais c'est une équipe qui a énormément de mal à faire le jeu.
Absolument, depuis cette année civile, ils ne sont pas capables de réaliser quoi que ce soit.
Et dès que tu dois prendre le ballon avant le contrôle, dominer, créer les autres défendent de bas, et en plus je pense que la pelouse, qui m'a l'air d'être en très mauvais état, alors tout le monde en parle,
c'est un euphémisme,
La pelouse,
mais c'est vrai que cette pelouse du stade de l'Âtre, elle est catastrophique, donc ça favorise pas le beau jeu, et
une équipe qui joue pas mal en contre et qui joue sur de la vitesse. Donc, ils sont handicapés, mais c'est une équipe qui ne sait pas faire le jeu. Ouais. Et quand tu prends des buts, pour revenir, présent, c'est extrêmement compliqué.
C'était à l'extérieur qu'on pouvait tirer notre épingle du jeu. Ça n'a pas été le cas depuis les dernières rencontres.
Depuis le début de l'année, heureusement que tu as pris des points en début de saison. Mmh. Parce que j'écoutais sur tu as un bilan tous les lundis sur BFM.
Il y a une émission spéciale consacrée au championnat national.
Je crois que c'est l'entraîneur adjoint.
Oui, que j'ai vu également hier.
L'adjoint de Gabriel Santos qui était en plateau.
Qui a dit des choses fort intéressantes, mais enfin, ça n'explique pas tout.
Tu as des joueurs prêtés qui savent qu'ils s'en vont parce que le club n'a pas les moyens d'acheter. Tu as des joueurs en fin de contrat, des joueurs qui ont été contactés, qui sont déjà en train de trouver un autre club, et il disait que peut-être c'était dû à ça, c'est-à-dire il suffit que tu n'as pas 25 joueurs à Aubagne, il suffit que tu aies 3-4 gars importants de ton équipe qui soient un peu moins bien, un peu la tête ailleurs, Et l'équipe, elle a énormément de difficultés.
C'est surtout cela qui l'a mis en exergue. Beaucoup des joueurs qui ont été contactés pendant le mercato et qui ont la tête peut-être sur d'autres horizons.
Voilà, on sait que ce n'est pas le même statut que les pros. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de somme énorme. Et au Bagne, il n'y a pas les moyens de... Il y a des joueurs qui ont été prêtés par l'OM d'ailleurs ou par Saint-Etienne pour l'attaquant Maïla et que tu sais très bien qu'ils ne resteront pas. Quoi.
Ouais.
Donc les mecs, ils ont joué maintenant. Voilà, peut-être que la motivation est un peu moindre, peut-être qu'eux. Et du coup, lui semblait l'expliquer comme ça. Ouais. Il y a une baisse d'intensité parce que moi, effectivement, ce qui m'avait frappé en début de saison... dans la première moitié, avant Noël, c'était un groupe de combattants.
Absolument, une complicité totale là, au sein de l'effectif. Ouais. Ouais.
Mais là, depuis le début de l'année civile 2026, depuis début janvier, on ne les reconnaît plus. Cette équipe est totalement méconnaissable. Ça se traduit à travers les résultats chaque semaine dans ce championnat national.
Alors, tu n'es pas largué, tu n'es pas des années-lumière, tu ne prends pas des valises. Mais tu perds un 0, 2, 1, voilà.
Vu les matchs qui nous attendent, les deux prochaines journées, nous...
Ça va être compliqué. Ouais. Il y a un déplacement ce vendredi sur la pelouse du leader, Dijon. Et après, ça sera la réception le vendredi 20 mars. Le FC Sochaux, qui est troisième actuellement de ce championnat national, qui viendra à Delattre.
Oui. Donc, pour se remettre en selle, ça risque d'être un peu délicat, mais enfin, il faut y croire.
Deux adversaires coriaces pour le SCAB sur ces deux prochaines journées.
Deux équipes qui jouent la montée,
qui aspire justement,
et pour qui d'ailleurs deux anciennes équipes de Ligue 1,
exactement, le DFCO et le FC Sochaux-Montbéliard,
voilà, ces deux anciennes équipes de Ligue 1 pour qui la montée en Ligue 2, je dirais pas est obligatoire, mais très importante économiquement, parce que le national, les recettes sont pas terribles et tu as du mal, quoi.
Ceux qui leur tendent les bras présentement.
Voilà, et si tu veux garder tes joueurs, il faut être au-dessus, il faut être au moins Ligue 2. Et donc, c'est deux clubs qui vont venir. Et pour Aubagne, on peut être un peu inquiet parce que tu es sur une mauvaise dynamique.
Voilà. Il va falloir justement remettre de l'ordre dans la maison et faire en sorte de...
Peut-être s'appuyer sur des joueurs qui vont rester, sur des peut-être un peu moins bons, mais qui auront une meilleure dynamique.
Et implication, on peut le dire également.
Parce que c'est vrai que là, tu es sur une pente inquiétante.
Bon, on suivra ça de près avec donc un déplacement sur la pelouse de Dijon, le leader ce week-end, et en sachant qu'il reste encore 9 journées dans ce championnat. Il y aura encore quelques points à prendre pour s'assurer du maintien définitivement. Mais bon, c'est vrai que, à ce que j'entends, vous n'êtes pas très optimiste pour cette fin de saison pour le SCAB, qui est actuellement 9e avec 28 points.
Bon, optimiser cette position-là et ne pas régresser, en l'occurrence, continuer de l'avant.
C'est-à-dire qu'en foot, on l'a vu, on va en parler dans quelques secondes avec le club phare, l'OM. Quand tu es dans une mauvaise dynamique, c'est la tête qui commande. Quand tu es dans une mauvaise dynamique, c'est compliqué et les défaites appellent les défaites. Voilà. Et c'est vrai que ce que disait, j'ai trouvé intéressant, on en parlait avant l'émission avec Franck et tout, l'entraîneur adjoint là, qui a parlé, qui a dit, en gros, il te dit, il y a des gars qui ne sont plus là. Quoi. Dans la tête, ils ne sont déjà plus là, ils s'en foutent. Ça me fout,
on les sent pas totalement concernés par le projet, en sachant que dans quelques semaines, leur aventure à Aubagne se terminera et qu'ils feront leurs valises pour repartir sous d'autres cieux.
Voilà, il t'a pas dit ça me fout, mais enfin, en gros, c'est ça qu'il fallait comprendre.
C'est ce qu'il a voulu plus ou moins faire comprendre auprès des supporters et du public.
Le message est bien passé.
Et il suffit que, par exemple, des joueurs prêtés aient des contacts avec leur club. Ils vont revenir, ils savent qu'ils reviennent, ils ont fait une bonne demi-saison, et voilà, ils sont plus, ils vont pas risquer, ils vont pas mettre le pied, comme on dit, et risquer de se prendre un mauvais coup, voilà.
Il y a un risque de blessure qui peut intervenir, et
on le voit même.
Ça pourrait remettre en question leur avenir.
On le voit en plus haut niveau, je regardais hier sur l'équipe, des débats sur Mbappé, qu'on te dit, actuellement au Real, son problème, c'est de bien se soigner pour jouer la Coupe du Monde. Et le Real, il va pas prendre le risque de jouer contre Man City en Ligue des Champions s'il risque de se péter et de manquer la Coupe du Monde. Quoi. Oui.
Voilà. Tous les clubs sont confrontés à ce genre de situation.
Voilà, et là, c'est un peu à un niveau tout à fait différent.
Oui, on peut le souligner.
Mais voilà, des joueurs en fin de contrat, des joueurs prêtés, des joueurs qui savent qu'ils sont bons.
C'est vrai que là, tu prenais l'exemple de Kylian Mbappé. Ouais. Je sais qu'il y a la cellule médicale du Real qui lui a proposé une éventuelle intervention chirurgicale pour se soigner. Mais bon, lui ne l'entend pas oreille. Il veut continuer à utiliser un autre protocole pour guérir et mettre tout en œuvre pour être établi le plus rapidement possible afin de participer à la Coupe du Monde au mois de juin.
On peut l'imaginer.
Pour lui, cette fin de saison, l'objectif principal, c'est plutôt l'équipe de France et cette Coupe du Monde.
Ça enchaîne très vite.
Je lisais dans la presse, alors pas que dans l'équipe, aussi dans Foot Mercato, sur
des sites spécialisés.
Sur SoFoot, des sites spécialisés où il participera très certainement à la tournée de l'équipe de France aux États-Unis fin mars contre le Brésil, la Colombie, mais il ne jouera pas parce qu'il n'est pas en état de jouer, il se reposera, mais il ira. Parce qu'il y a des contrats publicitaires qui l'obligent à y aller.
Il ne faut pas l'oublier, oui.
Donc, quand tu en es à ce genre de truc, je vais aller, plutôt que de rester à Madrid à me soigner tous les jours, parce que quand tu prends l'avion, tu fais l'aller-retour, tu es là, tu as des contrats publicitaires, donc tu as des réunions, tu as des trucs photos, tu as des... Voilà. C'est pas la meilleure manière de se soigner. Et que tu en es à des trucs comme ça, parce que tu as des contrats de sponsoring, à un moment donné, ça commence à poser question. Et tu commences à l'avoir dans des gros clubs où Paris Saint-Germain a le même problème avec Fabian Ruiz, qui est blessé, et qui a le choix entre reprendre et prendre des risques avec Paris.
Mais au niveau de Fabian Ruiz, il y a quasiment, d'après les journalistes et suiveurs du Paris Saint-Germain, aucune communication concernant un éventuel retour et vraiment la nature de sa blessure qui le prive de compétition depuis la mi-janvier. Ouais. Ça fait bientôt 2 mois que le milieu de terrain international espagnol est privé de compétition, mais pour l'instant, on n'en sait pas davantage. Ouais. Et on sait que lui aussi joue gros sur cette fin de saison, parce qu'il y a l'objectif Coupe du Monde avec La Roja et Luis de la Fuente en fin de saison.
Sachant que l'Espagne est un des favoris pour le titre, pour la victoire en finale. Champion d'Europe et c'est une très très grosse équipe. Et le mec, il a un choix et il ne va pas jouer, risquer de se flinguer le genou, comme Mbappé d'ailleurs, en jouant en Ligue des Champions alors qu'il n'est pas bien rétabli. Alors qu'il a la Coupe du Monde et qu'ils ont des objectifs autres. Bon. Et ça, tu le retrouves à un niveau plus bas dans d'autres équipes.
Notamment du côté du Sporting Club d'Aubagne-Herbelle. C'est le dilemme qui se pose pour la direction et pour le staff du Sporting Club Aubagne-Herbelle.
J'ai l'impression, évidemment, toute neutre, que l'on retrouve dans ces joueurs pseudo-professionnel pour certains et pro reconnu pour d'autres, d'être des micro-entrepreneurs et de finalement faire la pluie et le beau temps sur leurs propres intérêts, au-delà des liens professionnels qui les lient à leur club.
Je pardonne plus à un joueur d'Aubagne-Herbelle de National qui se cherche un contrat national ou Ligue 2 de 3-4 ans avec un salaire un peu décent,
bien entendu,
plutôt que des mecs qui gagnent 1 million par mois et qui sont des stars.
Mais là après, on parle de joueurs internationaux dans de grandes sélections des joueurs confirmés qui évoluent dans des très grands clubs européens.
Voilà. Et donc,
c'est un peu plus compliqué.
Mais le phénomène est assez approchant. Oui. Et c'est vrai qu'à l'approche d'une Coupe du Monde, on a cet aspect. On a cet aspect où il y a des mecs et on le voit à l'OM, on anticipe sur ce qu'on va.
On va en parler puisqu'on va rentrer de suite dans le vif du sujet avec ces deux matchs face à Toulouse. D'abord, des choses qui fâchent puisqu'on va revenir sur la Coupe nationale, la Coupe de France et le championnat, la Ligue 1, avec ce déplacement du côté du Stadium samedi qui nous a pas trop mal réussi et qui a permis à l'Olympique de Marseille de se relancer pour la course au podium.
Oui, pour reprendre la 3e place au goal average sur Lyon. Mais c'est vrai que le match de coupe, tu fais des équipes avec des joueurs qui sont... tu te demandes quelle motivation ils ont. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Tu te rends compte d'ailleurs, moi je me suis rendu compte mercredi, le match de coupe, que ton effectif est mal construit. Voilà.
Oui, on peut le constater, évidemment, mais après, avec le même effectif, on a réalisé un match différent quelques jours plus tard face à la même équipe. Mais bon, on peut en dire justement et développer nos arguments divers.
Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'en milieu de terrain, il y avait quand même deux joueurs majeurs qui étaient absents. Il y avait la suspension de Pierre-Emile Højbjerg et l'absence pour blessure du milieu de terrain international néerlandais Quentin Timber.
Voilà, et quand tu regardes le match de samedi soir en championnat, les deux ont été parmi les meilleurs Olympiens. Ouais. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont été bons, hein, mais les deux ont fait un très bon match. Et certainement, ils ont manqué mercredi, ou mercredi, tu te fais bouffer par Toulouse. Avec Abdelli qui malheureusement est passé complètement à travers.
Bah d'ailleurs, il en a fait les frais samedi puisque il était pas sur la feuille de match et Abibay lui a clairement signifié d'aller s'asseoir gentiment en tribune pour cette rencontre.
Ouais.
On peut le comprendre.
Après c'est un mec qui vient d'arriver, il est pas intégré, il connaît pas bien les. C'est un nouvel entraîneur, c'est un nouveau club. Enfin, c'est compliqué. On peut pas lui cracher dessus.
Non, c'est un joueur qui est arrivé il y a quelques semaines, donc le temps de prendre s'acclimater. Il y a eu ce changement d'entraîneur qui a été mis en place.
Perturbant un petit peu. Ouais. Et en plus, il a eu la malchance de faire des tacles un peu débiles. On peut le dire. Il est allé chercher les ballons, peut-être l'envie de combattre, de plaire au public.
Qui a provoqué un avertissement
Il en a pris. Enfin, le premier, l'arbitre ne lui a pas mis, il lui a dit vous arrêtez. Cinq minutes après, il lui a mis. Il est entièrement mérité. Et il a été, d'ailleurs, il a sorti à la mi-temps. Ouais.
Il a fait une période.
Ouais, voilà. Il a sorti à la mi-temps, sinon tu prends un rouge. Voilà, c'est débile. Et après, c'est son premier match titulaire au Vélodrome. Tu as envie de bien faire. Tu t'engages trop. C'est des erreurs de... Alors, il n'est pas jeune, parce qu'il a 26 ans. Voilà, mais c'est des erreurs un peu de jeune. Mais ça peut s'expliquer. Hein, ce n'est pas dramatique. Mais ça t'a énormément perturbé. Parce qu'au milieu, tu as été bouffé par Toulouse. Voilà. Ça, ce n'est pas normal. Alors que samedi soir, en championnat...
L'association que Abibay a mis en place, le trio Kondogbia, Timber, Højbjerg, tu as retrouvé en partie une bonne assise défensive au niveau du milieu. Et ça t'a permis d'être plus équilibré. Hein.
Bien content que Kondogbia ait pu justement tenir sa place malgré les matchs précédents où il a beaucoup donné. Et il a été, non pas exempt de tout reproche, mais il a fait un excellent match à l'image de ses partenaires défensivement et offensivement. On va en parler plus tard.
C'est plutôt une bonne chose de voir Geoffrey Kondogbia enchaîner. Trois titularisations en une semaine.
Ce n'est pas des moindres à son âge.
Après la réception de Lyon et le match de coupe.
Toulouse. Oui. Et où d'ailleurs, contre Lyon, il avait fait un match correct et contre Toulouse il est le moins mauvais au milieu de terrain,
on peut le dire ainsi.
Et après, bon, il est seul, mais pour expliquer à nos auditeurs, il joue en 6, un sentinelle devant la défense. Et Højbjerg, lui, recule en défense centrale, enfin le troisième central, pour la relance. Et après il monte, et Timber est plus haut, il harcèle et il essaie de donner un peu des passes. C'est un milieu qui a été complémentaire, qui a été bon. Alors ce n'était que Toulouse, mais en Coupe de France, au milieu ils t'ont bouffé, parce que Toulouse au Vélodrome en Coupe, les deux ailiers, Beau et puis l'ailier droit, je ne sais plus, je crois Vignolo, je crois que c'était
le jeune argentin Julian Vignolo.
Voilà, ils repliaient au milieu, ils venaient renforcer leur milieu. Et toi, tu t'es fait bouffer au milieu de terrain. Il faisait un pressing terrible et tu t'es fait manger. Et on sait que on le voit avec Paris Saint-Germain, hein, le milieu de terrain, c'est la clé. Si tu es pris au milieu de terrain, si tu es dominé...
La chose a été rééquilibrée sur le match de championnat face à Toulouse, justement.
Mais là, tu fais bien de parler de Paris Saint-Germain, puisqu'on a vu que vendredi soir, à l'occasion de la défaite à domicile au Parc face à Monaco, les joueurs parisiens étaient privés de João Neves et Fabián Ruiz. C'est vrai que pour Luis Enrique, le fait d'avoir aligné uniquement Vitinha, qui est un titulaire indéboulonnable au milieu, ça a changé énormément de choses pour le rendement de cette équipe.
Justement, finalement, les Monégasques ont su en profiter pleinement.
Oui, oui, et ils ont fait un très bon match. Ouais, ouais. Mais ils ont fait, en fait, ce que Paris faisait l'année dernière. Oui. C'est-à-dire, ils harcèlent. Ils ont harcelé le milieu. Tu avais le ballon, tu avais deux mecs dessus. Et contrairement à d'habitude, où Paris, c'est lui qui le faisait et qui bouffait les mecs, là, c'est eux qui se sont fait bouffer. Monaco mérite sa victoire.
Absolument.
Et ça te fait ressortir des failles défensives. Parce que, bon, alors, l'OM en coupe.
Mais là, Bibeye n'a pas mis l'accent sur ce point-là au niveau de la préparation du match.
Ah oui,
mais je pense que les joueurs marseillais étaient quand même préparés. Ils savaient que Toulouse allait quand même.
Mais c'est-à-dire le problème.
Presser, harceler au milieu de terrain. Ouais, et malheureusement, on dirait que les joueurs ont été surpris de l'impact physique mis en place par les joueurs toulousains.
Mais la mise en place, justement, stratégique de notre équipe, au milieu ou derrière, après, il s'agit de l'animation que tu en donnes sur le terrain. C'est bien beau de les mettre en place. Après, faut-il animer tout cela de manière convaincante
Et après, le problème en Coupe de France, ça a été le. Alors que, si j'en crois Bibeye, ils avaient identifié la qualité de Toulouse sur les coups de pied arrêtés.
Oui.
On se rappelle qu'en championnat, on se fait égaliser de partout.
Le match fin novembre au Vélodrome.
Oui, novembre, dans les arrêts de jeu à la 90+2 ou 3, sur une touche longue, un mec qui remise, et voilà. Et on savait que les mecs, leurs trois centraux, ces trois Golgothes, ils ont d'excellents joueurs de tête. Et tu prends les deux buts sur deux corners.
Eh oui.
Là, la date de but sur coup d'arrêté.
Voilà, et là, où est le marquage? Et quand tu regardes les. Moi, j'ai regardé les buts au ralenti, enfin, je veux dire.
Oui. Les deux buts toulousains, que ce soit l'égalisation de Beau ou le deuxième but de Aaron Cresswell, l'anglais.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est quasiment deux buts presque identiques.
Absolument, c'est pratiquement les mêmes situations.
C'est des corners bien tirés, parce que les mecs ont des Golgothes, les trois centraux, c'est trois baraques, d'un 90 et plus. Mais ils ont des systèmes de chenilles, d'appels, de joueurs qui font des blocs, qui te bloquent ton défenseur. Parce que quand on te dit, moi j'ai vu le second but, alors je l'ai vu au stade, il est devant moi, un virage sud, mais je l'ai vu ensuite sur l'ordinateur. C'est Balerdi qui se fait, mais il y a un bloc. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met devant, il est gêné, et le mec lui échappe. Et il arrive, il fait une 92, il saute, il met un coup de tronche, terminé, bonsoir.
Au niveau de la défense, quand même, quand on voit les joueurs qui composaient le catcheur devant Jérôme Rouli.
Oui, tu as quand même Aguerde qui est grand, Balerdi qui fait quand même sa taille, et tu as été battu. Après, tu as quand même un déficit sur Toulouse, un déficit de taille. C'est-à-dire qu'ils ont 4 ou 5 costauds grands.
C'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes gabarits. Hein.
Voilà.
Oui, Patrick, au-delà de la taille, je suis assez tout à fait d'accord. Cela ne suffit pas. Ouais. Mais on doit évidemment faire en sorte que jouer sur nos propres qualités et l'implication que nous avons donnée en Coupe de France n'était pas celle attendue. Match de championnat, justement, sur ce match-là, samedi, on a été différents. Alors même si il y a eu deux mi-temps distinctes sur ce match-là. On peut dire simplement que l'implication du milieu et nos défenseurs ont anticipé, au-delà des corners que nous avons subis, des situations de jeu offensives, mais on a été justement prêts et à anticiper les différentes actions.
Mais sur ce que tu dis, Franck, tu as raison, mais moi ce que j'ai constaté, c'est qu'à Toulouse, un championnat, la première mi-temps, on les bouffe. Oui. Je veux dire, parce qu'on a le ballon.
Je parle de.
On a le ballon, donc on attaque, on se crée plusieurs occasions. On met un très joli but de Greenwood sur une magnifique action de Pechao.
Et encore merci.
Qui déborde et qui centre en retrait, Greenwood qui fusille. Voilà. Très belle action. On aurait pu mettre une deuxième facilement. On a les occasions en deuxième mi-temps, mais plus sur des contres. Mais on les a mangés au milieu. Oui. Toulouse, ils n'ont pas vu le jour. En deuxième mi-temps, ils ont mis de l'impact. Et ils nous ont mis en danger. Mais contrairement au match de coupe, on n'a pas pris des buts bidons. La défense a tenu.
Voilà, alors, au-delà de la défense, voilà. Avec l'aide de son milieu de terrain. Voilà.
Il y a eu l'apport de Benjamin Pavard, qui n'était pas titulaire, qui a fait plutôt une bonne rentrée, qui pourra peut-être une carte à jouer à l'occasion de cette fin de saison, sur les 9 dernières rencontres en Ligue 1, pour aller chercher cette troisième place synonyme de qualification en direct en Ligue des Champions.
Oui, moi il a été très présent sur ce match-là.
Je pense que Pavard, normalement, la Coupe du Monde, c'est mort. Normalement.
Il
part de très loin.
Là, je ne pense pas qu'il soit dans les petits papiers du staff de l'équipe de France et de Didier Deschamps.
Par contre, s'il y a un blessé, sachant qu'il joue souvent arrière-droit, De Zerbi l'a souvent mis arrière-droit. Donc Deschamps, il est polyvalent, il les aime bien. Deschamps le connaît, il s'entend bien, il sait que c'est un gars qui est facile à gérer en équipe de France, même pas un mec qui fait des problèmes énormes. Donc, s'il y a des absents, et là on voit que Koundé est blessé, l'arrière droit de Barcelone est blessé.
Ah oui.
Est-ce qu'il, normalement, il doit revenir, mais on ne sait jamais.
La liste définitive pour la Coupe du Monde, elle est prévue début mai. Il y a encore quasiment
il y a de la marge,
presque deux mois. Pour.
Je pense que Bale, il doit jouer là-dessus. En disant, tu as fait 7-8 bons matchs, fais les 9 matchs qui restent, fais-les à fond, joue bien. Si tu as la réussite, on rappelle qu'il y aura 26 sélectionnés. Ça veut dire qu'il y aura 9 défenseurs. Et qu'on prendra un polyvalent qui peut jouer latéral et central, un truc comme ça.
Donc ça va encore toutes ses chances de postuler.
Et comme Lucas Hernandez à Paris, il est plutôt à la rue.
Oui.
Voilà, un mec qui peut jouer. Voilà,
Il joue très très peu avec Luis Enrique.
Et il n'est pas bon. Moi, je l'ai vu 2-3 fois. Il est vraiment à la rue. Quoi. Donc...
Il a encore une carte à jouer pour cette fin de saison, pour espérer faire partie du groupe qui s'envolera aux États-Unis pour la Coupe du Monde.
Il faut qu'il espère une blessure, mais il suffit d'une blessure ou deux, et le mec, il peut très bien qu'il y ait. Donc,
après, on ne va pas souhaiter qu'il y ait un titulaire de l'équipe de France qui se blesse et qui ne soit pas en mesure de pouvoir participer à la Coupe du Monde.
Pour Abibay qui est malin, tu lui dis, écoute, voilà, tu fonces, ça te permettra éventuellement, on sait que l'Inter Milan ne veut pas le récupérer si l'OM ne joue pas l'option d'achat, ce qui est extrêmement probable. Tu peux t'en aller, c'est 15 millions, c'est un peu cher, mais si tu fais qu'on termine, qu'on est en Ligue des Champions, pourquoi pas, si tu as flambé...
Bon, là, au jour d'aujourd'hui, à l'instant où on se parle, les probabilités de revoir Benjamin Pavard sous le maillot marseillais, elles sont pratiquement nulles pour la saison prochaine.
Quasi nulles.
Comme pour beaucoup de ses partenaires, maintenant, il a peut-être une épingle à tirer de jeu, on peut parler de jeu, pour ce qui le concerne. Ouais.
Ne serait-ce que pour l'honneur, c'est quand même un champion du monde international... qui a joué 2 finales de Ligue des Champions en gagnant une avec le Bayern.
On parle d'un joueur très expérimenté.
De très haut niveau, 29 ans, un joueur d'expérience. Ne serait-ce que pour l'honneur, tu peux terminer sur une bonne image. Et si tu as un peu de réussite, ça peut te servir. Et ça, c'est un élément, je pense que Bale, qui est un malin, il va vachement jouer là-dessus, parce que à Toulouse samedi, il a amené beaucoup.
Oh oui.
Du calme, de l'expérience. Et puis en plus, moi, ce que j'apprécie, c'est que quand il y a le feu, il met un grand coup de botte devant et on dégage.
Pragmatique dans ses interventions.
Pour relancer Benjamin Pavard, ça signifie que avec le retour de Naïf Aguirre, qui était de nouveau un peu embêté avec ses adducteurs. Absent de la feuille de match samedi au Stadium, c'est Facundo Medina qui ferait les frais du retour de Benjamin Pavard.
Oui, peut-être, ou alors une
pas forcément,
une défense à 3.
À 3, c'est un petit peu le signal qui a été donné quelque part.
On voit mal Abibay sortir Léo Balerdier.
Oui, parce que finalement, il a eu une très, très belle prestation.
Bon match à Toulouse,
il a été
bon
très
match.
Concerné.
On l'attendait au tournant après son match raté face à Toulouse et son tir au but.
Après, bref.
Ça reste discutable.
Moi, j'étais en tribune contre Toulouse dans une coupe.
Ouais, justement.
Quand on le voit avancer pour tirer, tout le monde s'est dit, mais il y a 3 ans, c'est pas lui qui rate contre Annecy, qui nous élimine.
Ça donnait un rappel.
Tout le monde a regardé, tout le monde a dit, hop là, je dis pas le mot qu'on a dit, vulgaire et grossier, mais tout le monde était comme ça, et tout le monde se balisait en se disant, il va le rater, et il a raté, il a mal tiré en plus. Et c'est un garçon qui se met trop de pression.
Alors, après, je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires de Habibey en conférence de presse d'après-match par rapport au fait qu'il ait désigné Léo Balerdi.
Oui. Bon, après, on peut comprendre évidemment sa conférence.
Mais vu le passif qu'il avait avec l'Olympique de Marseille sur les séances de tir au but.
Et voilà, mais le
on a du mal à comprendre.
Le problème après, c'est que les entraîneurs, en règle générale, n'aiment pas obliger les joueurs à tirer. Moi, je me rappelle, ça avait fait une finale de Coupe de France qu'on avait perdue.
D'accord, Patrick, seulement ils peuvent intervenir pour demander aux joueurs justement de s'abstenir de le faire.
Et oui, s'ils ne les sentent pas. Mais je me rappelle.
Mais là, sur la séance de tir au but face à Toulouse, il y a certains joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités.
Ah oui.
Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été dit après le match par rapport à la désignation. Déjà, rien qu'au niveau des défenseurs, pourquoi Balerdi a tiré, Naïef Aguerd, le petit Ethan Nouaneri qui on sait pertinemment ne continuera pas l'aventure
c'est bien de le souligner parce
avec
que
l'OM et qui vient d'arriver au club. Donc c'est quand même une charge et une responsabilité conséquente sur un éventuel échec.
Des désistements de la part de des partenaires, justement, et d'autres qui ont fait l'intérim sur la situation.
Et après, le truc qu'il y a, c'est qu'en général, un entraîneur demande qui se sent.
Oui.
Donc moi, je disais, je me rappelle, je crois que c'était en 2007, finale de Coupe contre Sochaux, je crois. Je ne sais plus si c'était Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Ribéry qui n'a pas voulu tirer.
Une qu'on a perdue.
Franck Ribéry.
C'était en Coupe de France.
Oui, c'était en Coupe de France.
Coupe de France.
Franck Ribéry qui était loin d'être. Qui a failli, qui aurait mérité d'être Ballon d'Or en 2013, international et tout. Et le mec, il ne s'est pas senti. Et quand tu ne te sens pas, c'est le meilleur moyen de rater. Donc, Nouaneri, il avait en demi-finale du Championnat d'Europe Espoir. En 2025, l'été dernier, il y avait une séance de tir au but, il avait tiré pour l'Angleterre, il avait réussi son tir au but. Donc si le jeune, il te dit « je me sens », là j'ai regardé la séance de tir au but entre Lyon et Lens, en coupe, le dernier quart de finale.
Oui, le dernier quart de finale jeudi soir.
Le deuxième ou troisième tireur lensois, c'est un jeune de 19 ans, Ryan Fofana, qui est rentré à la fin du match. Qui en plus est arrivé très sûr de lui, chambrant et compagnie, tu te dis oula, et le mec il t'a fait un contre-pied d'enfer, et voilà. Mmh. Et comme quoi, les très anciens se rappelleront, la Coupe du Monde 98, quart de finale contre l'Italie, 2 des 5 tireurs français, c'est Trézéguet et Henry, 19-20 ans.
Les deux plus jeunes dans l'effectif de cette équipe de France.
De Jacquet, ils les ont mis impeccables. Mm-hmm. Et pour les vieux comme moi, Amoros en 82, il avait 20 ans, arrière droit. Il tirait, il marquait.
Tu me parles d'Amoros, c'est bien ce joueur que j'adore, qui a manqué contre l'Étoile Rouge de Belgrade.
En finale, la Ligue
des
Champions.
À Paris.
Après,
rien n'est défini là-dessus.
Moi, je pense que Bay, il a pris les mecs qui ont dit oui. Ce qui est plus gênant, c'est les joueurs d'expérience qui ont reculé, qui ont dit non, je ne tire pas.
Dans ce genre de situation, on se dit où sont les cadres et ceux qui doivent assumer leurs responsabilités de taulier et d'anciens au sein du vestiaire marseillais.
Tu fais bien de le souligner.
Et tu l'as vu parce que Aubameyang, qui pourtant a raté son match, n'a pas été bon. Il n'a pas été servi.
Contrairement aux autres, il a pris ses responsabilités.
Il a tiré en second, il a mis au fond. Voilà. Greenwood a tiré en premier alors qu'il avait tiré en match. Donc c'était son deuxième.
Concernant Mason Greenwood, il y a eu cette polémique par rapport au placement.
Je voulais revenir là-dessus, Thierry.
Vas-y, Franck.
Justement, il s'est permis, c'est juste expliqué auprès des téléspectateurs sur le dernier match, en expliquant, on lui a demandé, mais pourquoi tu t'es mis en retrait, justement, lors de la séance de tir au but. Alors, il a parlé...
Ça a beaucoup fait parler,
Parce que les polémiques vont bon train, surtout en ce moment, et surtout chez nous. Il a expliqué très simplement le côté superstitieux de la situation. situation, ouais. Et que voilà, après, bon, ben, il n'y avait rien justement à l'encontre de ses coéquipiers ou de la situation. Ouais. Voilà, il a exprimé clairement.
On sait que les joueurs, souvent, ont des superstitions. Ouais. C'était Lisa Razou, un jour, qui a expliqué, en parlant de Zidane, de Barthès, de ses copains
entre
de l'équipe
autres,
de France,
oui.
Voilà, ouais. Qui a expliqué, tu rentres du pied gauche, tu rentres du pied droit, tu mets la telle chaussette, c'est Zidane qui disait qu'il mettait les chaussettes en droit d'abord, le gauche après, et jamais l'inverse.
On l'a vu dans une publicité.
Ça devient des tics, trucs de superstition. Et on sait que Greenwood, il tire souvent du même pied parce que un junior, il en avait raté un parce qu'il a les deux pieds, Greenwood. Il avait raté.
Il tire des deux, du pied droit et gauche. Hein.
Et du gauche.
Il est ambidestre.
Oh, voilà, mais.
Et heureusement.
Et on sait qu'il en avait raté un d'un pied, donc il tire en général de l'autre. Voilà. C'est des trucs.
Après, ne pas remettre en cause son implication.
Mais Greenwood, en tout cas, il a mis, et il les a bien mis les deux dans le match et dans les tirs au but.
C'est vrai qu'il a eu cette faute provoquée très rapidement, au bout de.
Première minute.
20 secondes de jeu. Et après, il a pris ses responsabilités, il a transformé et réussi son pénalty. Et aussi, c'est lui qui a tiré le premier tir au but de la séance.
Voilà, qui t'a bien lancé. Et je disais Aubameyang en second. Et Aubameyang, même s'il n'a pas fait un bon match, même s'il était bouilli, parce qu'à 38 ans, c'est un peu dur de tenir 90 minutes, pénalty, il a tiré, il a mis au fond. Et puis alors, il n'y a pas de... Voilà. Et quand tu regardes, même à Gerd, il a réussi parce que, il faut dire à nos auditeurs...
Il a raté la première tentative.
Voilà, le gardien arrête, mais le gardien n'avait plus les deux pieds sur la ligne dont l'arbitre a fait retirer.
Oui. Et heureusement, mais ça n'a pas suffi.
Et là, il a bien mis. Et Noaneri l'a mis au-dessus. Et Balerdi l'a mal tiré. Le gardien l'a arrêté. Et c'est vrai que tu peux te poser des questions, mais après... Mais sur le moment, tu demandes de qui est prêt. Tu as des mecs qui regardent ailleurs. Bale, c'est un ancien joueur, il sait très bien que le mec...
Il ressent les choses, bien entendu.
Et il y était l'année où Ribéry n'a pas voulu tirer un péno en finale de Coupe de France.
Mais moi, ce qui me dérange, c'est le fait quand même, comme tu dis Patrick, que ce soit un ancien joueur et qu'il ne se soit pas préparé éventuellement à ce scénario. Je veux dire, quand on joue un match de coupe, il faut toujours parer à toute éventualité et je pense que... Le fait de voir la rencontre aller au tir au but, c'était un scénario plus que plausible face à cette équipe de Toulouse.
Il a pu s'exprimer sur le sujet, justement. Alors, il n'y avait pas de préparation particulière avant ce match-là. D'autant plus qu'ils font des préparations à l'entraînement, le tir au but, ils font comme d'habitude. Hein, ils en tirent 10 chacun, ou à peu près. Mais bon, il n'y avait rien de plus, justement, au niveau préparatoire.
Moi, j'avais vu des débats, parce qu'il y avait eu, je ne sais plus comment il s'appelait, mais un directeur technique de la Fédé qui avait fait une déclaration attaquant Deschamps sur le fait qu'on avait perdu une séance de tir au but, que ça se prépare. Et Deschamps avait répondu en disant
Regardez sur les quatre quarts de finale qu'on a disputé la semaine dernière sur cette Coupe de France, il y en a trois qui se sont joués au tir au but.
L'OGC
Nice est allé s'imposer au tir au but sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. Ouais. Le Racing Club de Lens s'est imposé au tir au but sur la pelouse de Lyon et Toulouse qui est allé gagner au Stade Vélodrome face à l'OM
après,
au tir au but.
Quand tu regardes, par exemple, Lyon-Lens, qui était le jeudi soir, qui était en direct sur France Télévisions, que je pense beaucoup de nos auditeurs ont regardé, le Lyonnais qui rate, c'est Niakate. C'est-à-dire champion d'Afrique.
Avec qui vient de gagner la Coupe d'Afrique il y a quelques semaines.
50 et quelques sélections, qui a été très bon pendant le match, qui est un leader de cette équipe et qui en plus le tire mal. Voilà, il rate son tir.
Ça arrive à tout un chacun, même en meilleur. Moi, je
me rappelle de Platini ratant un pénalty en Coupe du Monde au Mexique en 86. Maradona qui rate un pénalty.
Ça arrive au meilleur.
Contre Toulouse en Coupe d'Europe.
Oui, c'est en UEFA à l'époque.
Dans les tirs au but, c'était l'UEFA à l'époque. À Toulouse, Et Maradona, c'est lui qui élimine Naples en ratant son pénalty. Il met sur la barre, hein. Il ne le met pas à 10 km au-dessus.
C'est
il a mis
pour
sur
cela qu'il est bien facile de jouer voilà, la pierre donc, en disant...
Mais les échecs dans les séances de tir au but, c'est la culture de l'instant.
Oui, oui,
je
oui.
Je l'ai
oui,
rappelé,
voilà.
ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc,
voilà, ça se joue. Et c'est évidemment. Peut-être pour ça que le jeune Anglais, le faire tirer en dernier, c'était peut-être pas malin. Peut-être voilà. Il aurait été mieux de le faire tirer quand tu as un rattrapage oui. potentiel. Voilà. C'est-à-dire que, parce que par exemple, quand Balerdi rate, il tire en troisième, le pénalty d'après, Rouli le sort. Donc tu reviens à égalité.
Oui, voilà. le tir au but de Christian voilà. Cáceres.
Voilà, alors que là, tu es à 4 à 3, tu es le dernier, c'est le dernier mais tir au but. Tu
la
le rates,
liste étant donnée au préalable, il est évident qu'après, il faut faire voilà. avec la situation.
Et ouais. si le gars te dit « je me sens », ma foi, moi, c'est extrêmement compliqué. C'est tellement facile après de dire si on avait fait ça. Mais c'est souvent, ça se joue sur des petits trucs. Et donc moi, ce qui me gêne sur le match de coupe au Vélodrome, c'est que tu prends l'avantage, tu mènes au score.
Deux fois tu mènes au score fois. Et deux fois tu te fais rattraper
plus,
sur des coups de pied arrêtés.
Tu as de la chance parce que... Le premier, à bout de 20 secondes, de pénalty pour une faute débile sur Greenwood.
Ouais.
Et le second, Pechao, qui met un but qui vient de la Lune. Quoi. Parce qu'il est... c'est le même genre que quand il a mis un championnat contre Lyon. C'est-à-dire,
lui-même a dû être surpris de
voilà, il rentre. Ouais,
je ne pense pas que ce soit vraiment le geste qu'il souhaitait faire. Mais bon, voilà, à l'arrivée, ça fait mouche. Et
parce
ça...
qu'il est vraiment bien près de la ligne de but. Alors que... Le but qu'il met contre Lyon, il rentre dans la surface, il est de côté, mais il est quand même face au but. Quoi. Donc il le brosse dans la lucarne. Là, il te met une frappe brossée, que le goal est un peu avancé, il est pris. Il met un but de vienne de la Lune. Et derrière, tu mènes 2-1, tu n'es pas foutu de tenir un résultat. Et on a même eu la chance... On aurait pu prendre une troisième avant la fin de...
Ça s'est joué à pas grand-chose.
Ah ouais, ça s'est joué à des millimètres. Et Rouli, d'ailleurs, a fait un très bel arrêt sur un corner, encore un coup de tête. Mmh. Il a fait un super ouais. arrêt. Et que c'est pas normal que tu prennes que tu sois quatre fois battu sur des coups de pied arrêtés. Quoi.
Mais on sait souvent que... moi, je regarde par rapport aux chiffres. Il y a eu cet avantage avec le deuxième but d'Edouard Pachao à la 56e. Et généralement, on dit toujours les 5 minutes qui suivent,
oui,
le
oui.
moment de déconcentration. Et l'égalisation de Cresswell, elle intervient à la 60e.
Oui,
donc,
oui,
il n'y a même pas 5 minutes qui s'écoulent entre le but de Pachao, l'avantage marseillais, et l'égalisation toulousaine qui fait que le match se termine au tir au but.
Ce qu'on dit généralement, mais le fait est, c'est qu'on n'a pas forcément pris conscience sur l'instant présent, à ces moments-là, que
voilà,
ces paramètres-là. Ouais.
Tu fais des fautes, parce que le but de Cresswell, c'est un grand classique. Un coup de pied arrêté, bien tiré, mais
ben
fait,
ouais.
voilà. Les mecs qui font la chenille, il y en a un qui fait bloc, qui gêne les défenseurs. Alors il fait rien, il fait pas de faute. Hein. Il reste, il est là, il est au milieu. Donc il te gêne pour être sur le mec. L'autre, il contourne, il arrive lancer.
Et le placement, le positionnement du gardien aussi, là, sur sa ligne, Geronimo Rouli.
C'est difficile, Rouli, parce que le mec, il arrive, il lui met un coup de boule, il est seul, personne ne le gêne. Parce que sur les coups de pierre...
C'est ça
même,
qui est important. Voilà. Il n'a pas été gêné, justement,
voilà. Même
le
quand le mec
adverse.
Est plus grand, qu'il est bon de la tête, moi, je me rappelle à l'époque, on va revenir aux années, c'était Van Buyten, le Belge, Daniel Van Buyten.
Oui, Daniel Van Buyten.
Voilà, qui faisait une 98.
Il n'a pas perdu en taille.
Monstrueux de la tête. Et qui disait, des fois, on disait, il y a eu des coups de pierre arrêtés. Il disait oui, parce que les mecs te gênent. Il te pousse, il te tire un peu, il te tire le maillot, il t'empêche. Il n'y a rien qui donne un pénalty, parce que ce n'est pas grand-chose. Hein.
Ben ouais.
On se pousse, on se tire voilà, sur les
ça
corners.
Ça fait partie de l'ensemble de situation.
Mais ça ne te permet pas de bien cadrer. Là, le mec, il est arrivé tout seul, il a mis le coup de boule. Et je ne vois pas ce que, sur sa ligne, Rouli peut faire.
Rouli aurait pu anticiper
et
là-dessus. Ouais.
Et sortir, c'était trop risqué.
Ouais.
On se rappelle qu'en championnat, la fameuse touche dans la 90+3, c'est il sort pour essayer d'avoir le ballon. Et il y a un Toulousain qui prend le ballon de la tête juste levant et qui le lobe. Et il y en a une deuxième derrière qui la met au fond. Voilà. Mm-hmm. Et donc là, il est resté parce que normalement, il a des défenseurs et des joueurs qui doivent bloquer, empêcher. Et le mec, il arrive lancé, c'est le deuxième.
C'est là où le bas a blessé, justement.
Parce que voilà, le premier, c'est pareil. C'est une tête, Rouli repousse. Alors, on peut dire qu'il repousse mal. Mais il sort le ballon, il se jette, il sort comme il peut. Et Gbo, l'attaquant de Toulouse, est tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui était au marquage qui le lâche. On va dire le nom, on va faire les indics. Hein. Ouais. C'est Abdelli qui est au marquage et qui lâche le mec. Et le mec, il est seul. Et alors, on peut dire qu'il aurait dû repousser sur le côté. Enfin, on peut toujours critiquer.
Ça ne nous a pas échappé, évidemment.
Voilà. Mais bon, il arrive à sortir le ballon, mais le mec, il y a un mec seul qui est devant, qui reprend et qui met au fond. Et ce n'est pas normal de prendre deux buts comme ça. Quoi.
C'est ça, normal. C'est cette complémentarité défensive qui part du milieu.
Voilà. Et c'est un manque d'engagement, parce que sur les coups de pied arrêtés, c'est l'engagement. Hein. Il faut y aller, il faut aller au combat. C'est ce manque d'engagement qui fait que les mecs prennent le dessus.
Voilà. Au-delà du déficit de la taille, qui n'était pas rédhibitoire en l'occurrence.
On aurait pu pallier ça. Même si le mec il est un peu plus grand, tu le gênes, tu le pousses un peu. Voilà.
Et ouais, on n'a pas été capable.
Il peut pas cadrer sa tête, il la cadre pas et compagnie. Et on ne l'a pas fait, ce qui explique d'ailleurs beaucoup les réactions du public où ça a sifflé méchant à la fin du match. Parce que... deux fois tu mènes, deux fois tu te fais reprendre sur un truc, j'allais dire, de cadet, quoi. C'est très décevant.
On peut le dénommer ainsi, ouais.
Voilà.
Il est vrai que par la suite, évidemment, Thierry, que le match de championnat en lui-même, malheureusement, ou je ne sais pas, chacun verra midi à sa porte, les supporters marseillais qui étaient en tribune adverse à Toulouse, ils étaient fort nombreux. Bon, évidemment, on n'était pas là pour justement encourager leur équipe. Ils ont pu, malheureusement, par un affichage, dire leur grief dans une phrase. Voilà. Mais pour moi, après, c'est à titre personnel, je ne suis pas assez d'accord avec cette manière de...
Oui. Voilà. Voilà, moi, je dirais juste que je comprends le match de coupe. Tu es au Vélodrome, tu as... supporter ton équipe pendant 80... Parce que quand il y a eu la séance des tirs au but, si certains de nos auditeurs l'ont vu à la télé, sur beIN Sport, c'était le stade scandait le nom de Rouli, applaudissait les mecs, on a encouragé, même pendant les tirs au but. Et on a sifflé, les Toulousains ils se faisaient insulter dès qu'ils venaient, et toi, tu as été encouragé. Après, tu perds en étant pas bon, et le public il réagit, alors... jeter les fumigènes, c'était un peu excessif.
Non, c'est vrai qu'il y a eu des incidents à la fin. Voilà. Bon, vraiment.
Mais en plus, voilà, mais ça, c'était un peu.
C'est fort regrettable et déplorable.
Voilà. Par contre, aller à Toulouse, parce que c'était pas les supporters toulousains ou les gens, supporters de l'OM, je parle, ou les gens du sud-ouest, comme il y en a très souvent à Toulouse.
Il y a énormément de sections de supporters.
Voilà. Qui viennent, qui sont en tribune au milieu des Toulousains.
Mais qui
ne
sont pas dans le parcage visiteur. Que, voilà,
c'est le parcage visiteur. C'est des mecs qui venaient de Marseille.
Non supporters.
Vous êtes des merdes, et les siffler, les insulter pendant l'échauffement. Ça, c'était... Moi, si ça ne me plaît pas, j'y vais pas.
Moi, j'avais envie de leur dire, restez chez vous à ce moment-là.
Reste chez toi, n'y va pas. Quoi. Voilà.
C'est vrai que cette banderole qui a été déployée par les supporters au stadium samedi soir, c'était pas très opportun. C'est vrai que, bon...
Mais c'est pas très opportun. Et quand tu vois Greenwood justement aller saluer les spectateurs quand il marque, je suis pas d'accord du rejet dont il a été sujet. Quoi.
Oui, parce que.
Et à la fin, d'autant plus.
Voilà quoi. Mais bon, ça c'est un peu. Tu vas supporter ton équipe, tu vas pour la supporter, vas pas pour l'affaiblir. Quoi. Je dis autant au stade, je peux comprendre à la fin du match. C'est tu n'es pas satisfait du jeu, tu n'es pas satisfait du résultat, tu siffles, la bronca qu'on appelle. Autant se déplacer pour aller voir ton équipe et avant le début du match, après c'est pas pareil de la banderole qui attaque la direction, qui critique, mauvais
recrutement. Mais là c'était un contexte différent puisque c'était un match à l'extérieur. Mais bon, c'est vrai qu'on on scrutera de près l'attitude la réaction du public vendredi soir pour la réception d'Auxerre à l'Orange Vélodrome.
Tout ça enchaîne très vite, justement. Voilà. Et là, on est dans une position...
Ça sera le match d'après pour les supporters marseillais. Oui, c'est après cette élimination. Et puis bon, là maintenant, il faut confirmer le bon résultat de Toulouse, cette victoire. Et faire en sorte de continuer pour réussir à conserver cette troisième place.
Oui, parce que n'oublions pas que Lyon a un calendrier compliqué, nous aussi. Hein. Mais enfin, Lyon, ils jouent Lens, ils jouent Paris, je crois qu'ils jouent Strasbourg, enfin, ils jouent des équipes de haut tableau. Et donc ils peuvent ils ont l'Europa League.
C'est voilà. Vrai que
faut pas oublier l'enchaînement de matchs de Lyon
là. Ils peuvent lâcher les points.
Malgré leur élimination en Coupe de France face à Lens la semaine dernière, ils sont encore en lice en Coupe d'Europe une double confrontation contre le Celta Vigo semaine avec le match aller dès ce jeudi
retour la semaine prochaine. Et jeudi prochain. Et l'Europa League, on le sait, parce qu'il y a trois ans, c'est nous qu'on l'a
joué. C'est vrai que jouer le jeudi, ça fait...
Et tu joues le jeudi soir, quand tu te déplaces à Vigo, c'est à la frontière portugaise en Espagne, que tu rentres en avion, tu arrives à 5 heures du mat, tu rejoues le dimanche en championnat, c'est rude, c'est pas simple. Et on l'a vu en coupe, là, quand ils ont... Ou un championnat contre Paris FC où ils concèdent un nul sur leur terrain dimanche. Il arrache un pénalty.
Il y a eu un pénalty de Corentin Tolisso à la 96e.
Voilà.
Mais 6 minutes de temps additionnel revenir dans le match.
Tolisso est rentré parce qu'il ne jouait pas en début de match.
Mais qui est encore discuté de la part.
Oui, parce que c'est une main, centre. Qui va sur la main d'un joueur de Paris FC.
Et discutable, entendu.
Il y a eu quand même un grand turnover de la place de Paulo Fonseca pour cette rencontre.
Il est obligé, quand tu vois leur banc qui n'est pas extraordinaire, parce qu'ils ont pas mal de blessés, ils peuvent lâcher des points. Donc contre Auxerre, il faudra absolument
gagner.
Mais
ça fait 4 matchs, tu ne gagnes plus l'Olympique Lyonnais. Il y a eu cette défaite à la maison, à la Méno, face à Lyon.
Face à Strasbourg. Ils ont perdu au Vélodrome.
Il y a eu au Vélodrome, élimination en coupe. Et le match nul concédé face au Paris FC dimanche soir.
Ils ont quand même un match nul. Ils se retrouvent au même pointage que nous, malgré la différence de but.
Disons qu'ils se retrouvent à égalité à 46 points avec l'OM. Mais... Comme tu disais Thierry, 90 plus 6, ils ne sont pas passés loin, ils pouvaient se faire taper. Sur le vu du match, d'ailleurs, ça n'aurait pas été un scandale que Paris FC s'impose. Tu sens que cette équipe, le vieux Tolisso, il a du mal à enchaîner, il faut qu'il soit sur le banc.
Elle est un peu à bout de souffle, cette équipe lyonnaise. Dans le sprint final, on voit que...
Et donc, tu as quand même des problèmes. Mata qui n'avance plus... Tagliafico qui est bouilli, enfin ils ont des problèmes, et donc ça peut nous permettre, donc nous les points il faut qu'on les prenne, parce que la troisième place est essentielle pour être sûr d'être en Ligue des Champions.
Sachant que les deux objectifs qui avaient été fixés pour cette fin de saison, c'était remporter la Coupe de France et terminer troisième et être sur le podium pour aller chercher cette place qualificatif directement en Ligue des Champions pour la saison prochaine.
Je dirais dans le désordre.
Il y a eu déjà un objectif qui est tombé à l'eau.
Oui.
Voilà, sans faire un mauvais jeu de mots. Ouais. Et le deuxième qui va être très important pour la suite.
Et oui. Moi, ça m'a fait sourire au jaune quand j'entends quand tu es au stade des quarts de finale. L'objectif, c'est de gagner la Coupe de France. D'abord, dans le premier lieu, j'aurais mis évidemment d'être dans les trois premiers. Pour être directement pas qualifié en Ligue des Champions. Ouais. Tout n'était pas compromis. Et tout n'est pas compromis. Maintenant, c'est nous la compromission dans l'histoire. Prenons les matchs les uns après les autres. Il y a Auxerre qui se profile à domicile. Alors évidemment qu'eux, il y a leur fardeau à porter, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en place de barragistes. Et ils se sauvent pour rester en Ligue 1.
Maintenant, c'est une équipe qui lutte pour réussir à se maintenir. Et puis là, il reste sur un match nul à la maison face au Racing Club de Strasbourg, 0-0.
Oui, oui.
Qui n'est pas un mauvais résultat pour eux. Voilà, Strasbourg, c'est costaud. Mais le problème d'Auxerre, c'est que c'est une équipe très moyenne. Quand tu regardes l'effectif, il n'y a pas de quoi... à sauter au plafond.
Mais ils n'ont rien à perdre.
Mais ils ont prévu 0 point au Vélodrome. Ils viennent, ils vont essayer de jouer bas, défense à 5, ils jouent quelques contres. Si toi, tu n'arrives pas à marquer rapidement, si le public commence à siffler, que tu commences à avoir le pied qui tremble, comme on dit, tu peux te faire avoir bêtement. Et eux, ils n'ont absolument rien à perdre. Mmh. Eux, qu'est-ce qu'ils perdent à Marseille ? Ben, ils perdent, c'est logique. Ouais. Voilà.
C'est, la, donc, c'est la situation qui risque de
mais
nous attendre.
Attention, ouais. Parce qu'il y, y a les équipes de derrière qui arrivent fond, assez
oui,
fort.
Oui. Hein. Il y a Rennes qui a 3 points.
Ben, voilà. Voyons ce qu'a fait Rennes, justement.
Il y a l'AS Monaco qui s'est imposé de belle manière sur la pelouse du Parc en ouverture de cette 25e journée.
Donc, aucun droit à l'erreur.
Et Monaco, on y va après la trêve internationale.
Justement, voilà, mais là par rapport pour mettre un peu en perspective le calendrier et les échéances qui vont arriver pour l'Olympique de Marseille, il va falloir regarder un petit peu le calendrier des uns et des autres. Et puis bon, là, il y a cette réception d'Auxerre. Après, il y aura deux réceptions à la maison pour l'Olympique de Marseille. Il y aura l'Auxerre vendredi soir et Lille le 22 à 17h15 qui viendra au Vélodrome. C'est juste avant la coupure internationale. Ouais. Juste après, premier week-end du mois d'avril, il y aura ce déplacement au Stade Louis II à Monaco le dimanche 5 avril à 20h45.
Si tu veux pouvoir aller à Monaco minimum tranquille, c'est-à-dire que même si ça se passe mal, tu as un peu de marge, il faut gagner les deux au Vélodrome. Voilà. Parce qu'après, on reçoit Metz, on va à Lorient. Aller à Lorient, ce n'est pas un cadeau, c'est pas cool.
Et il y aura un OM Rennes en clôture à l'occasion de la 34e et dernière journée. Voilà, le stade Rennais de Franquesse qui viendra au Vélodrome pour le match retour.
Après être allé à Lorient, on reçoit Nice et puis on va à Nantes et au Havre.
Bon, il ne faudra pas négliger la réception de Metz également pour la
29e. C'est des équipes difficiles.
C'est des équipes qui n'ont rien à perdre, qui jouent le maintien.
Un petit mot sur, tu lui évoquais Patrick, le déplacement à Nantes. On a appris aujourd'hui qu'Ahmed Kantari avait été écarté du football club de Nantes et un vieux de la vieille, Vaidaloudzi, qui va retrouver un club dans lequel il a déjà joué, entraîné.
Entre autres, le coach Vaïd.
Coach Vaïd, 73 ans, qui fait son retour sur les bords de... De la Loire.
Nantes est un bastion du foot français. C'est une grosse ville. Ouais. C'est un stade, c'est un très beau stade avec une belle ambiance. Donc, on souhaite en théorie que Nantes puisse se maintenir. Il y a déjà Saint-Étienne, Bordeaux qui ne sont plus en Ligue 1. Si en plus tu perds Nantes, ça fait beaucoup. Mais le problème, c'est que l'équipe est très faible.
Ouais. Et on sait que Valdemar Quita et son fils sont des gros consommateurs d'entraîneurs. Puisque c'est le troisième cette année après Luis Castro qui arrive en début de saison de Dunkerque et Ahmed Kantari. L'ancien international marocain qui est passé par le stade brestois qui a pris la suite de Castro.
Et en plus, comme me disait en ironisant hier sur la chaîne de l'équipe, je ne sais plus qui, heureusement pour eux que Comboiré a signé à Paris FC, sinon c'était lui qui retournait encore à Nantes. Quoi.
C'était
tu te demandes où ils vont chercher, et je ne vois pas trop ce que Alilodzic, 73 ans, il va gueuler, il va essayer de la jouer au combat. Mais l'équipe est faible.
À moins d'accélérer son rythme cardiaque, je ne vois pas l'intérêt.
Mais c'est vrai que
c'est à titre personnel.
Cette défaite à la maison face à Ostro d'Angers ce week-end, ça a été le match de trop pour l'ancien international marocain, Ahmed Kantari, sur le banc nantais.
Là, ça a signé son arrêt.
Ça va être compliqué. Après, pour nous, ça peut être un problème. S'il arrive un peu à jouer la révolte et à faire.
On verra à ce moment-là si cette équipe nantaise a réussi à se sortir du trou. Parce que aujourd'hui, à 9 journées de la fin, on sait qu'ils occupent l'avant-dernière place de ce classement de Ligue 1.
Tu y vas à la 32e sur 34, te restera 2 journées. Donc, si les mecs ils ont besoin de points, ça peut être compliqué.
Ça peut être déterminant.
Donc il va falloir que l'équipe serre les rangs. Il va falloir que les cadres, on a vu ce samedi contre Toulouse, Pavard, Balerdi qui a fait Kondogbia, Hoiberg qui ont fait des bons matchs.
Ça demande confirmation.
Parce que les points, il faut les prendre. Parce que n'oublions pas, Rennes revient, ils sont à 3 points. Lille est à 5 points et je crois Monaco à 6. Sachant que Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y va.
Ce qu'il faudra prendre en compte aussi, c'est que là, on est sur une semaine européenne. Il y aura l'Olympique Lyonnais et Lille qui jouera cette semaine en Ligue Europa et Strasbourg aussi, tu fais bien de le préciser Patrick, en Conference League.
Oui.
Bon, après même si l'adversaire est quand même moins...
Oui, c'est rillé.
Parce que bon, on sait que Lille jouera contre Aston Villa en Europa League et Lyon défiera les Espagnols du Celta Vigo qui ont en partie malmené le Real à l'occasion de la dernière journée de Liga. Mais bon, c'est quand même deux adversaires courriers pour nos deux clubs, nos deux représentants français en Europa League.
Et oui,
après, est-ce que ça sera préjudiciable pour eux au niveau du championnat, selon leurs résultats réciproques
Ça peut l'être pour les deux, parce que Lyon commence à être sur la jante, et Lille, ils n'ont pas remplacé Ingaman, leur avant-centre marocain, qui s'est fait les croisés en janvier à la Coupe
d'Afrique. Tu fais bien de le rappeler, oui.
Ils n'ont pas remplacé, et le pauvre Giroud, à 39 ans...
Il fait ce qu'il peut, ouais.
C'est compliqué pour Bruno Genesio, et on l'a vu encore ce week-end avec match nul concédé à la maison face à Lorient.
Voilà, pourquoi il concède ? Parce que tu mets un ailier avant-centre qui n'est pas un avant-centre, qui ne pèse pas physiquement et qui n'est pas un buteur en plus. Et donc tu te retrouves, tu es en galère. Quoi. Et c'est compliqué pour eux et l'Europa League ne va pas aider. Même si, à mon avis, avec Aston Villa, ils ne vont pas aller bien loin. Hein. Parce qu'Aston Villa, c'est costaud quand même.
Oui, c'est ce que
même si on sait que côté de Birmingham et de Unai Emery, il y a pas mal d'absents dans cet effectif.
Oui, il y a beaucoup d'absents, mais...
Notamment Bouba Camara, qui s'est fait les croisés et qui va rater toute la fin de saison avec...
On sait que l'entraîneur Unai Emery est un expert pour gagner l'Europa League. Il a gagné trois fois avec le FC Séville et une fois avec Villarreal. Donc c'est un spécialiste. Et donc, ça sera... Espérons que pour l'OM, ça nous permette la fatigue de Lille.
Très rapidement, puisqu'il nous reste une minute.
Oui, que la fatigue des trois Européens fasse que les mecs ils lâchent des plumes. Quoi. Parce que nous, on en aura besoin.
Juste très rapidement, une chose, pour conclure, Franck.
Très simplement, il faudra tout d'abord, évidemment, aller au bout de nos matchs, c'est-à-dire les remporter. C'est la chose cruciale qu'il nous faudra pour ce faire et pas compter sur les résultats de nos adversaires potentiels.
Ça peut être une prime qui te laisse une petite marge, mais il faut d'abord gagner tes matchs.
Voilà. Tout partira de là.
Voilà. Et bien, on y reviendra largement la semaine prochaine pour la prochaine journée. Et puis bon, sachant que l'Olympique de Marseille ouvrira cette 26e journée avec la réception de Auxerre au Vélodrome vendredi soir à 20h45. Mmh. Voilà, on dit au revoir à tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, bye bye à tous.
Au revoir, merci. Au revoir.